RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Et nous sommes pour cette deuxième heure toujours en compagnie de Michel Odoul. Dis-moi pourquoi ça m'arrive maintenant. Et oui, donner du sens à ce qui nous arrive, ça nous permet en règle générale non seulement de mieux subir l'épreuve, mais souvent d'arriver à mieux la dépasser. Comment résister à la tentation? Un nouveau conseil dans un instant. Clémence qui a testé le vibromasseur Pearl Shine Share. Et Isabelle Filiosa sera notre guide pour nous aider à développer notre joie de vivre. Voilà le programme de cette deuxième heure. Mais je vous pose la question, Michel Odoul. Vous nous parlez des 12 étapes herculéennes de la croissance. C'est aux éditions Albin Michel, votre dernier livre. Et vous, c'est laquelle votre épreuve préférée? Et pourquoi?
Alors, tout dépend ce que vous mettez derrière préféré.
Ce que vous voulez.
celle qui me semble être majeure, que vraiment j'ai rencontrée et qui a touché quelque chose en moi quand j'ai fait ce travail de recherche, c'est l'11e épreuve herculéenne, c'est les pommes d'or du jardin des Hespérides. Parce que c'est une épreuve qui porte une symbolique qui est absolument troublante dans notre façon habituelle de voir le monde, qui est là pour nous montrer qu'en fait, il y a une vraie nécessité pour nous, pour pouvoir affronter le monde, à prendre conscience des valeurs qui sont les nôtres. Et que cette conquête et cette recherche des valeurs qui sont les nôtres est destinée non pas à ce qu'on se les approprie, mais qu'on sache qu'on les a. C'est-à-dire, c'est comment, en fait, se réconcilier avec soi et établir un rapport de confiance dans les capacités qui sont les nôtres.
Mmh. Et à partir de ce moment-là. C'est la conscience de nos propres valeurs, oui, voilà. C'est tellement important.
Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, arrive la 12e épreuve qui est la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'on ne peut descendre aux enfers que quand on est allé chercher la lumière.
Absolument, oui. Oui. On retrouve ça aussi dans le tarot de Marseille, hein.
Je pense que c'est un archétype même de ce qu'est la réalité humaine et que malheureusement nous allons souvent, je pense que l'invité de tout à l'heure, la personne, le témoignage de tout à l'heure en était la démonstration. Loïc, quand on n'a pas conscience de ses propres valeurs et de ce que l'on vaut, donc de ce que l'on mérite, on va chercher peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas ce que l'on mérite et qui est finalement peut-être beaucoup plus négatif.
Dis-moi pourquoi cela m'arrive maintenant, les 12 étapes herculéennes de la croissance. C'est aux éditions Albin Michel. Michel Odoul, donc, est avec nous et vous pouvez bien sûr nous appeler pour lui poser des questions, réagir sur les sujets qu'on a abordés tout au long de la semaine. Bonjour Sonia, sur la fameuse maladie de Crohn dont on avait parlé lundi avec Gabriel Pellumeter qui venait nous évoquer nos bonnes bactéries. Bonjour Sonia.
Bonjour Brigitte Lahaye. Oui, effectivement, je reviens sur l'émission de lundi qui m'a fort intéressée parce que mon mari a tous les symptômes de la maladie de Crohn, mais en fait ce n'est pas la maladie de Crohn, c'est un grand stressé, donc ça fait 15 ans qu'il prend 6 Imodium par jour. Et donc par rapport, vous parliez tout à l'heure du cancer du côlon, c'est vrai que j'ai peur que ces médicaments fassent énormément de mal à son corps. Donc je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensiez. Bon, c'est vrai que selon ce qu'il mange aussi, comme vous disiez, la viande rouge, tout ce qui est sauce tomate et tout, ça le provoque. Mais de toute façon, il se rend stressé et donc il se donne, entre guillemets, la couronne du 1er janvier au 31 décembre, malgré les 6 Imodium par jour.
C'est un grand, grand, grand stressé, en tout cas, oui.
Très grand stressé.
Bien sûr que derrière tous les problèmes de type intestinal et abdominal, on va trouver du stress et des grands stressés ou des anxieux. Il faut bien différencier les choses. La maladie de Crohn, ça concerne l'intestin grêle, pas le gros intestin.
D'accord, parce que le toubib avait dit que c'était pas la maladie de Crohn, mais en fait, on a tous les symptômes.
Mais c'est possible parce que la maladie de Crohn, c'est un état inflammatoire chronique ou aigu d'une partie précise qui est la fin de l'intestin grêle. Il peut y avoir d'autres zones de l'intestin grêle qui soient enflammées ou qui soient spasmées. Donc, ça n'est pas parce qu'il y a des douleurs intestinales, parfois violentes et brutales. Vous savez, c'est le grand classique des enfants avant la rentrée des classes ou un examen important où ils se disent ils mettent à avoir mal au ventre. C'est pas quelque chose qu'ils inventent. C'est un phénomène, on va dire, neurovégétatif qui se met en place. Si en plus de ça, l'alimentation n'est pas très très équilibrée et que la personne, on va dire, essaye de dépasser ses stress par un certain nombre de comportements alimentaires ou compulsifs, il est bien évident qu'à un moment donné, il va y avoir une sanction corporelle à ça et que les douleurs abdominales et intestinales peuvent en faire partie. Et je crois que plutôt que de prendre une médication destinée à faire taire ces manifestations-là, votre mari devrait plutôt consulter quelqu'un qui lui permette d'aller gérer ses stress.
Ben, il a déjà, enfin non, ça en fait, il voit un psy, mais il travaille pas dessus, il ne veut pas d'ailleurs, et en fait, de toute façon, il a le profil d'être hypochondriaque, et il est content d'être hypochondriaque.
Mais très bien, mais à ce moment-là, la particularité de l'hypochondriaque, c'est de changer de temps en temps de symptômes.
Ah oui, non mais lui, c'est toujours le même, et le problème, c'est qu'en vieillissant, ça devient de pire en pire. pour tout du moins les gens qui sont autour de lui.
Oui, mais Sonia, encore une fois, quand on a un problème qui est le même et qui est récurrent et qui n'est que celui-là, bah, on a des avantages collatéraux.
Oui, mais après, vous êtes d'accord que quand on a la cinquantaine, à un moment, il faut pouvoir se prendre en charge et que moi, même avec
mais
la meilleure
Sonia,
volonté...
Sonia, on entend bien à quel point c'est insupportable pour vous et puis vous essayez de l'aider et puis de toute façon, il est dans le déni ou il ne vous écoute pas. Et de toute façon, voilà. Mais moi, je pense que c'est à lui de comprendre en quoi ça l'arrange d'avoir ça plutôt que de se prendre en main en quelque sorte pour comprendre.
Voilà, non, moi
pour...
mon souci aussi c'est que les 6 imodiums par jour au fur et à mesure des années, est-ce que justement ça va pas pour de bon après lui déclencher pour de bon un vrai cancer quoi.
On verra bien. On va pas projeter des choses négatives, Sonia, pour l'instant.
On ne peut pas faire de pronostic là-dessus, mais une prise de médicament quel qu'il soit, qui n'est pas suivie par un médecin correctement et qui dure sur le temps et dont le seul pronostic c'est l'augmentation des doses, n'est de toute façon pas obligatoirement générateur de cancer, mais n'est de toute façon pas bon pour l'organisme.
Il faudrait qu'il se prenne en charge avec un psy, mais bon, ça il veut pas.
Pas obligatoirement un psy, déjà un médecin homéopathe ou qui pose la question à son médecin déjà?
Bah, son médecin, il sait comme il est, donc il a laissé tomber parce qu'il n'y a pas de choses possibles.
Oui, et comme vous, vous auriez intérêt aussi à laisser tomber parce que vous y mettez beaucoup d'énergie qui ne sert à rien, Sonia.
Non, alors maintenant, quand il me dit quelque chose, je fais oui, ça va, c'est bon. Mais en fait, ça n'arrange pas les choses parce qu'il trouve toujours des gens pour se faire plaindre en fait.
Et bah, c'est bien ce que je dis, il a des avantages collatéraux à avoir ce problème-là. Il existe à travers ce problème-là.
Tout à fait.
Ouais, eh oui. Fait. Et ben pourquoi ne veut-il exister qu'à travers ce problème-là? Qu'est-ce que ce symptôme cache d'autre? Vous voyez, c'est comme ça. Moi, à votre place, je biaiserais.
D'accord.
Ça a commencé il y a combien de temps?
À la naissance de son premier enfant.
Par exemple.
Il y a 16 ans, donc.
Ben voilà.
Donc c'est une difficulté peut-être à être père ou ça le renvoie.
Ça le ramène à sa propre naissance.
Voilà, vous voyez Sonia. Donc essayez-vous de comprendre le sens qu'a son problème. Et comme ça vous pourrez biaiser comme je viens de le dire et peut-être l'aider. Mais tant que vous irez de front, vous ne pourrez pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que ça l'arrange d'avoir ça plutôt que de chercher pourquoi il a ça.
D'accord. Ok.
Merci Sonia.
Très bien. Merci beaucoup Gisèle.
Je vous en prie.
Au revoir.
Alors on continue bien sûr à donner des conseils pour résister à la tentation. Vous savez Michel Odoul, il y a une grande mode. Oui, c'est pas grave d'être infidèle, tout va bien, etc. Alors je prends un peu le contre-pied parce que je pense que c'est un petit peu. Il vaut peut-être mieux de temps en temps redire les choses essentielles. Et alors le conseil du jour. Figurez-vous que une enquête assez sérieuse a prouvé que 77% des gens, hein, aussi bien hommes que femmes, considèrent que la fidélité totale est nécessaire pour qu'un couple soit durable. C'est énorme, hein, 77%, même si on sait qu'évidemment il n'y a pas 77% de gens qui sont fidèles. Hein. Mais bon, alors voilà, donc si vous avez vraiment envie de faire durer votre histoire, il faut peut-être y penser que c'est quand même une des conditions principales, pratiquement, hein, à part quelques exceptions. Et moi, le conseil que je donne aussi, faites attention avec les petits arrangements qu'on fait avec soi-même. Vous entendez souvent parler de cette fameuse « oui, l'important c'est d'être fidèle à soi-même ». Alors, qu'est-ce qu'on en pense si c'est notre partenaire qui va développer cette idée qu'il faut être fidèle à soi-même, que c'est ça l'essentiel, hein ? On va peut-être déjà être un petit peu moins d'accord. Et moi, je trouve que cette soi-disant fidélité à soi-même, c'est une assez grande malhonnêteté psychique. Donc, c'est pas une bonne excuse.
En tout cas, c'est un évitement facile.
Voilà, hein, vous êtes d'accord ?
Ah oui, absolument.
Donc, soyons un peu plus lucides sur nous-mêmes.
Un petit peu plus clair, voilà.
Fidélité à soi-même.
Je crois que voilà.
Hein, bon, on s'est compris. Voilà. Et puis, c'est Clémence qui a testé pour nous ce jouet, ce vibromasseur Pearl Shine Share. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Pas terrible. Je suis pas. Je trouve qu'au niveau du visuel, il est. Pour le coup, il est très réel.
Ça plaît plus du tout. Hein. C'est démodé, moi, ces jouets. Hein. Oh.
Ouais. En fait, je trouve que du coup, par rapport aux autres jouets qui sont vachement plus glamour, plus entre guillemets, on va dire design, hein, parce que c'est le cas. Je trouve que ceux-là, ils ont.
Mais vous avez reçu le jouet de votre arrière-grand-mère, en fait. Clémence. C'est pour ça.
Non, peut-être pas quand même. Mais quoique, j'ai même pas envie de. C'est bizarre. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé... Pour le coup, oui, c'est réaliste. Donc, c'est, on va dire que c'est ce qui devrait être presque le mieux. Mais
bah non, autant qu'à faire, autant en avoir un vrai à ce moment-là.
Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Donc non, j'ai pas trouvé ça transcendant. Ça donne pas très envie, en fait. Bon, voilà. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais...
Mais c'est celui-là qui compte, Clément. C'est vous qui l'avez testé pour nous. Et exactement. Puis, bah, voyez, de ce que vous me dites, moi, j'ai pas envie de l'essayer. La note que vous lui donnez.
Je vais lui donner un 3.
3 sur 10. Voilà. Bon, bah, s'il y en a qui ont quand même envie d'aller le voir, hein, ce vibromasseur Pearl Shine Share, il est bien sûr sur la boutique de l'émission sur rmc.fr. Merci beaucoup, Clémence.
Merci.
Et merci à vous, Michel Odoul. Merci d'être venu une fois de plus. Et je rappelle le titre du livre, Dis-moi pourquoi cela m'arrive maintenant, les 12 étapes herculéennes de la croissance aux éditions Albin Michel. Dans un instant, on va retrouver la joie de vivre grâce à Isabelle Filiosa qui sera avec nous.
RMC, 14h-16h, la LA. RMC, Brigitte Lahaye, Love Conseil.
Alors je vais vous parler de la peur du ridicule et qui est vraiment un obstacle à l'harmonie sexuelle. Vous connaissez tous pourtant cette phrase, hein, le ridicule ne tue pas, mais personne n'a envie de se sentir ridicule lors d'un ébat amoureux. Et pourtant, rien n'est ridicule quand on partage ensemble un moment de sensualité ou de sexualité. Et bien souvent, d'ailleurs, notre peur d'être ridicule est totalement injustifiée. Malheureusement, dans ce domaine, peut-être plus encore que dans tout autre, on a un peu tendance à se référer à la norme. Et pourtant, des études ont prouvé que plus on se compare, moins on va bien, hein, en fait. Hein. Donc, je pourrais vous dire, oser être ridicule, mais ça va pas forcément vous aider. En revanche, si je vous dis osez volontairement être ridicule dans un de vos ébats et faites ça ensemble, et vous verrez que non seulement ça peut vous amuser, mais ça va aussi améliorer votre complicité. Vous allez en rire et donc vous allez franchir un pas dans l'acceptation de ce qu'est la sexualité. Par exemple, pourquoi pas porter un vêtement sexy totalement ridicule. Il y en a beaucoup, hein, d'ailleurs. Donc ça montre bien que ça a du sens. Essayez une position un petit peu déplacée, faites l'amour dans un endroit qui est franchement inadéquat et voyez ensemble que ce que vous semblez, qui vous semblait si ridicule sexuellement, finalement c'est quand même vachement sympa de le faire et vous allez voir, c'est une expérience qui sera tout à fait étonnante pour vous deux et peut-être qu'après, plus facilement, vous pourrez aller dans les recoins de votre personnalité et essayer de dépasser ce qui vous semble ridicule. Notre guide aujourd'hui, c'est Isabelle Filiosa. Je suis ravie de vous recevoir. Isabelle, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour à tous et à toutes.
Et je suis d'autant plus ravie parce que Les Chemins de la Joie, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Et alors vraiment, je trouve que c'est une émotion, la joie bien sûr, et vous allez nous l'expliquer bien sûr dans un instant. Mais on n'en parle finalement pas beaucoup, je trouve. On parle tout le temps de la peur, de la colère et cette émotion si belle, si forte, elle est finalement très peu mise en valeur.
Tout à fait, Brigitte. Et c'est vrai que c'est humain. On parle davantage de ce qui nous pose problème, de ce qui est difficile dans la vie, parce qu'on se dit, si je parle de mes peurs, si je parle de mes rancœurs, je vais peut-être arriver à trouver des solutions. En réalité, si on parle aussi de la joie, on a besoin d'augmenter notre joie pour être plus heureux. Et la joie... Cultiver la joie, c'est au moins aussi important que de regarder les émotions dans lesquelles on se trouve enfermé.
Oui, mais en même temps, il suffit d'ouvrir les médias et c'est que des mauvaises nouvelles. Hein. On sait que les mauvaises nouvelles font plus d'audience que les bonnes nouvelles.
Malheureusement, c'est ça. Elles font plus d'audience parce que c'est arrivé. J'ai vu aux infos récemment, c'était Lucie Sauboul qui avait réalisé tout un journal avec que des bonnes nouvelles. J'avais trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, oui, ça met la pêche, ça. Mais c'est pas revenu très souvent et donc je me dis, c'est vraiment dommage. Et c'est vrai, on a cette tendance à être fasciné par ce qui va mal. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que nous nous sommes insensibilisés dans notre enfance. Nous nous sommes insensibilisés parce qu'on nous a dit « ne pleure pas, ne sois pas en colère, n'aie pas peur ». Voilà. Bref, on nous a enfermé nos émotions et on les a réprimées, nos émotions. Du coup, souvent, eh bien, la vie, on doit faire ce qu'on nous demande, on va un peu sur un chemin et on ne sent plus grand chose. Alors, on a besoin de se sentir vivre. On a tous besoin de se sentir vivre. Et quelque part, ça nous donne un petit piment d'excitation de savoir, ça fait peur, oh là là, là. Et donc, nous sommes mobilisés, remués par les émotions douloureuses et difficiles. Et c'est pour ça que, du coup, on se fascine et qu'on regarde davantage tout ce qui fait peur et ce qui fait mal.
Alors, le sous-titre, l'émotion du sens de la vie, la joie, c'est ce qui donne le plus de sens à sa vie, Isabelle Filliosa?
Pour moi, je l'identifie vraiment comme étant l'émotion que nous éprouvons lorsque notre vie prend son sens. Et j'ai réfléchi à l'idée que le mot sens, il a en fait trois sens. Il a le sens de direction, de signification et de sens, le sensoriel. Donc, et c'est vrai que la joie, elle va naître de la connexion à autrui, c'est-à-dire quand notre vie a du sens. Quand on perd quelqu'un de très cher, on va entendre quelque chose du style « Oh, ma vie n'a plus de sens. Mmh. En fait, ma vie n'a plus de signification. Je ne sers plus à rien. » Et donc, une partie de ce qui nous procure de la joie, c'est la connexion avec autrui.
Oui, vous insistez beaucoup sur le besoin d'appartenance, le besoin de se sentir relié dans ce livre.
Tout à fait. Dès qu'on se sent ensemble, en fait, on va éprouver de la joie. Que ce soit avec une personne, quand on se sent dans un couple, en profonde harmonie, on sent qu'on est dans le même rythme, alors on va éprouver de la joie. Quand on se sent, on est dans tous ensemble dans un stade, on vibre aux mêmes émotions, on éprouve de la joie. Donc, dès qu'on vibre ensemble avec une personne ou avec des milliers de personnes, on va éprouver de la joie.
Mais alors, comment on fait pour éprouver de la joie tout seul?
Heureusement, ça, ce n'est qu'une seule des dimensions. Ça, c'est la connexion. D'abord, on peut se sentir en connexion avec l'humanité sans que forcément l'humanité soit présente.
Et ça, c'est la spiritualité.
C'est la spiritualité, tout à fait. Et on peut, dans le quotidien, il y a toutes sortes de moments quand on fait attention à nos sensations. Parce qu'en fait, la joie, c'est chaque fois que je me sens vivre. Et donc, on se sent vivre quand on est avec les autres. On se sent vivre quand on atteint ses objectifs, quand on réussit. Mmh. Mais on se sent vivre aussi simplement quand on écoute sa respiration.
Quand on est en conscience avec soi, quoi.
Et voilà, tout simplement. Mmh. On est dans la nature, c'est plus facile encore dans la nature. On monte à cheval, on marche dans la forêt, on bouge, on sent son corps en mouvement, on sent le contact avec la nature, avec l'extérieur. C'est vraiment ce dedans-dehors, je me sens exister. Et chaque fois que nous nous sentons respirer, nous nous sentons exister, nous pouvons éprouver de la joie.
Je vous propose qu'on donne la parole à Julien qui a eu envie de réagir. Bonjour Julien.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Isabelle.
Vous avez une voix joyeuse, Julien.
merci beaucoup. Oui, je trouve votre sujet passionnant parce que moi, tout d'abord, pour commencer, je trouve que votre émission m'apporte beaucoup de joie au quotidien. Donc je tiens à vous remercier pour ça et je tiens à remercier aussi tous les invités que vous invitez au quotidien parce que ils apportent tous leur expérience et leur vision et je trouve que c'est très bienveillant et c'est très positif dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose que je tenais à signaler.
Bah merci beaucoup, Julien. En tout cas, c'est vrai que j'essaye plutôt de transmettre de la joie que du malheur, ça c'est vrai.
Absolument.
Et mais parce qu'on parle d'amour, et l'amour, c'est la joie, hein, de toute façon.
Exactement, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, malheureusement, tous les jours, et ça, c'est la contrainte et le côté négatif de la période actuelle. Mais, parenthèse fermée, pour mon histoire personnelle, moi, je pense que la joie, elle s'acquiert aussi avec une remise en question chaque jour en soi, individuellement, à titre individuel. Et je pense que avant de trouver la paix et la connexion avec les autres, il faut commencer par se connecter soi-même. Et donc j'ai souvent en mémoire votre métaphore que vous redites parfois, c'est l'histoire du sac à dos. Vous savez, on porte un sac à dos tout au long de sa vie. Et la vie, c'est des étapes, donc c'est bien parfois de s'asseoir sur un banc à certaines périodes de sa vie et de faire le tri dans son sac à dos pour faire une sorte de tri émotionnel. et affectif. Et ça, ça permet aussi de mieux se connaître et de mieux lutter face aux difficultés quotidiennes, aux épreuves. Et donc ça permet d'avoir une certaine confiance en soi et donc forcément une estime en soi qui nous permet de gagner en sagesse et donc d'être connecté à soi-même et par la suite avec les autres.
Bah c'est bien, Julien. Et puis c'est surtout bien de ne pas donner son sac à dos à notre partenaire.
Tout à fait.
Isabelle Filiosa, vous en parlez du sac à dos d'ailleurs dans Les Chemins de la Joie.
Oui, je parle de ce sac à dos et c'est une des images que j'ai dans mes conférences. Et c'est vrai que ça marque souvent. J'ai un sac à dos avec plein de peluches sur scène et chaque peluche évoque une émotion, une scène, un moment qui a été particulièrement difficile. Et Julien a tout à fait raison. C'est vraiment important de temps en temps de s'asseoir, d'ouvrir le sac à dos et de regarder ce qu'il y a dedans, revivre ce que chaque situation nous a apporté, parce que nous regardons ce que ça nous a apporté comme souffrance et souvent en fait on ne veut même pas regarder tellement ça nous a fait mal, mais on oublie que tout ce que nous avons vécu finalement ça nous a aussi construit, ça a fait la personne que nous sommes aujourd'hui. Et en regardant que nous sommes, oui, tout ce sac à dos est à l'intérieur de nous et ça fait partie de nous, en regardant toutes ces situations de notre passé, au lieu de les enfouir dans le sac à dos et de faire semblant qu'elles ne soient pas là et qu'effectivement du coup on les débarrasse sur nos conjoints, eh bien on va plutôt regarder notre histoire parce que ça nous permet de nous relier. Julien utilisait le mot de se connecter à soi-même. C'est une façon de, quand on regarde notre histoire, on peut relier les différents événements et voir qu'est-ce que chaque chose m'a apporté, comment j'ai grandi de chaque événement.
Oui, Julien, allez-y.
Je suis entièrement d'accord avec vous, Isabelle. Sauf que le problème à l'heure d'aujourd'hui, surtout moi par rapport à mon histoire, je viens d'une culture méditerranéenne où il y a beaucoup de tabous. Et vous savez, le langage émotionnel, pour en discuter, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas dans les mœurs. On en parle aujourd'hui un peu plus qu'autrefois, mais je pense que ça va demander du temps. Et le problème, c'est que le fait de se connecter à soi, il faut avoir un courage pour le faire. Et souvent, comme on a souvent des blessures d'enfance ou des choses incomprises ou des souffrances qu'on a gardées inconscientes et qu'on reproduit après par frustration, je veux dire, le questionnement et ouvrir les portes, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le courage aussi de pouvoir se défaire de sa culture et de pouvoir avancer.
Mais Julien, je crois que c'est pas... Enfin, c'est un peu dans toutes les cultures, vous savez, Julien. On est au début d'une possibilité justement de faire parler ses émotions, d'être dans l'intelligence émotionnelle. Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Jusqu'à présent, on était et malheureusement, il y a encore des pays dans le monde où ils en sont là. On était dans le besoin de survivre. Vous savez, l'empathie, c'est une qualité dont on parle, mais finalement depuis très peu de temps, c'est quand même un luxe, j'ai presque envie de dire, de pouvoir évoquer la joie entre nous, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, Isabelle Filiosa, mais
C'est sûr que dans une perspective historique et sociologique, c'est assez nouveau. On vivait la joie, parce que la joie a toujours fait partie. Et donc, dans mon livre, j'évoque aussi cette période de la fête des fous. C'est-à-dire que tous les gouvernants ont été attentifs à fournir suffisamment d'occasions de liesse au peuple pour que, justement, ils continuent de ne pas se rebeller. Donc, mais clairement, nous n'avions pas cette possibilité de nous poser autant de questions quand on était à lutter pour sa survie chaque jour. Bon, ceci dit, aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui sont à lutter pour leur survie. Et c'est ça aussi qui est limitant. Il y a cette dimension sociale. Tant qu'on est dans l'insécurité, c'est difficile d'accéder véritablement à la joie parce que du coup, on peut être privé de liberté quand on est soumis, quand on est dans cette dynamique où on a une insécurité financière. Eh bien, ça peut être difficile de prendre contact avec la joie et de réaliser que notre vie peut avoir du sens. On se sent assez rapidement humilié. Faut pas oublier cette dimension sociale de l'humain.
Et d'ailleurs, vous faites fait, vous évoquez justement le travail et l'argent dans ce livre. Alors ça pourrait paraître comme ça un peu bizarre, hein, vous parlez de la joie, et vous montrez bien à quel point la manière dont on gère aujourd'hui le travail et l'argent, elle est assez néfaste à notre bonheur intérieur finalement.
Ah bah tout à fait. On nous fait croire que si on va acheter dans tel ou tel magasin, on va éprouver du bonheur. On nous fait croire que si on s'achète une montre comme ci comme ça, alors on va éprouver beaucoup de joie. Et on nous fait croire que ce sont ces possessions qui vont nous donner cet accès à la joie. Mais en réalité, la joie, elle ne vient pas quand on a le confort. Le confort est très utile, c'est certain. Mais ce n'est pas en courant après toutes sortes de choses matérielles que nous allons développer la joie. La joie, elle va se développer davantage dans l'effort, dans la relation.
Mmh. Vous dites aussi une chose que j'ai trouvée très intéressante, le seul argent qui fait du bien et qui donne de la joie, c'est celui qu'on partage. C'est intéressant parce que, bon, bien sûr, on a besoin d'un minimum d'argent pour vivre, et ça, je crois que il faut pas le nier, hein, attention. Mais en revanche, être très très riche n'apporte pas la joie. En revanche, être généreux apporte la joie, en quelque sorte.
Tout à fait. En fait, à chaque fois qu'on donne de l'argent ou autre chose, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on se sent intérieurement riche. C'est en posture d'être plus riche puisque je donne. Et donc ça nous nourrit aussi. Et quand on donne, eh bien on sent ce lien qu'on établit avec l'autre, et du coup ça nous procure effectivement de la joie.
Julien, en tout cas, merci d'avoir réagi. Vous êtes donc dans la joie aujourd'hui, ça va?
Oui, ben vous savez, c'est un travail au quotidien, hein, donc le monde des bisounours n'existe pas. Donc il faut rester lucide et rationnel, mais le fait d'être en relation avec ses émotions et développer l'empathie en relation avec les émotions des autres, ça aide beaucoup à se remettre en question et à continuer à avancer. Et moi, juste pour rajouter et finir, je pense que l'idéal, c'est de continuer à faire vos émissions, à parler d'amour, et c'est ça qui sera le maître mot du futur. Et je veux dire, plus on parlera d'amour, plus vous continuerez vos émissions, et plus ça sera le meilleur pour tout le monde.
Oui, j'ai pas cette prétention quand même, Julien. Hein. Je fais comme le petit colibri. Hein. Vous connaissez l'histoire, Isabelle.
Tout
Fénusa,
à fait. Donc il n'a pas tort.
Merci beaucoup, Julien, en tout cas. Isabelle Filiosa, c'est vrai que la joie, vous le dites, hein, c'est parfois un peu suspect chez l'adulte, autant chez l'enfant, un enfant qui rit pour un rien, etc. On va tous s'émerveiller, on va dire oh, c'est formidable, et on va avoir envie d'ailleurs de s'émerveiller avec lui. Un adulte, c'est déjà plus suspect. C'est quand même curieux. C'est dommage qu'on perde cette part, finalement.
C'est tout à fait dommage. Hein. Et quelquefois, les enfants peuvent se demander, est-ce que j'ai vraiment intérêt à grandir quand je vois que les adultes perdent leur joie. Quand on pense joie, si on pense une image de joie, la plupart du temps, on pense à un enfant. Un enfant, voilà, tout de suite, la joie est là, le rire est là, l'expansion est là. Mais quand on devient adulte, il semblerait qu'on doivent devenir sérieux. On nous l'a dit, arrête de jouer, arrête de rire, allez maintenant, tu es grand, tu es sérieux. Et donc, petit à petit, on a associé l'idée que quand on est grand, alors on doit être sérieux. Et du coup, sérieux devient presque sévère. Et si on est trop joyeux, eh bien, c'est presque comme si on était moins intelligent, moins brillant, ou moins, voilà. C'est comme si on devait faire preuve de culture, et que si on a de la culture, eh bien, on est moins joyeux. Eh bien, ça n'a rien à voir du tout.
Et alors, est-ce que les anges sont joyeux, Ariane?
Eh bien, ça dépend pour qui tombe dessus et qui les découvre. En fait, je suis tombée sur cette histoire et j'ai pas résisté à l'envie de vous la raconter. Ça se passe en Indonésie, des habitants d'un village isolé ont découvert, ou plus exactement, un pêcheur a découvert un jour ce qu'il appelle un ange qui lui est tombé du ciel pendant qu'il était en train de pêcher.
Ça vient pas de l'enfer, hein, de toute façon, les anges.
Non, normalement pas.
Ça vient du ciel.
Et donc, du coup, il ramène cette poupée, en fait, qui avait une forme de poupée. poupée en plastique.
Ah d'accord,
à son village.
D'accord. Je croyais qu'il avait eu une illumination. Non, il avait vraiment un objet qui pour lui était un ange.
Qui pour lui était un ange, mais pas que pour lui, parce que ce village est vraiment isolé. Il n'y a pas du tout de connexion à Internet. Et en fait, tous les habitants de ce village en question ne savent pas du tout ce que c'est qu'une poupée gonflable, en fait, tout simplement.
D'accord.
Et c'était en effet une poupée gonflable qui lui est tombée dessus. Et alors, ils ont vraiment considéré que c'était une divinité là-bas. Alors, c'était déplorable.
Mais elle venait d'où, cette poupée gonflable? Elle tombe du ciel?
C'est un mystère, effectivement, c'est un mystère. Alors, il y a eu plein de rumeurs dans le village, vous savez, ça allait très vite.
Ils l'ont surnommée Marie
Non, ils lui ont pas donné de surnom. Par contre, chaque jour, la mère de celui qui a trouvé cet ange, donc, cette poupée gonflable, s'amusait à l'habiller, à lui changer son foulard tous les jours. C'était une divinité pour le village, jusqu'au jour où, parce que certains disaient, oui, on l'a même vu pleurer quand il l'a trouvé, c'était terrible, un vrai ange qui était en souffrance pour nous les hommes. Enfin, c'était terrible, ça a pris une dimension incroyable, à tel point que des policiers ont été dépêchés sur place pour vérifier la véracité des propos de ces habitants. Et finalement, ils ont expliqué qu'il s'agissait juste d'une poupée gonflable. Ils l'ont réquisitionnée et fin de la belle histoire. Malheureusement, ça leur a échappé et ils n'ont pas eu de divinité. Et après,
pourquoi leur a retiré cette poupée gonflable?
Je ne sais pas pourquoi on lui a confisqué.
C'était un objet trouvé, non?
Écoutez, confisqué.
Ça avait l'air d'apporter de la joie au village, après tout.
De la joie au village, mais aussi des fausses rumeurs. Et c'est pour ça que ça a été confisqué. Voilà ce que a déclaré, en tous les cas, l'officier de police qui a été envoyé dans ce village un peu surprenant. Et du coup, je me suis amusée à me dire, mais tiens, quel est le rapport entre les divinités, la religion, le sacré et le sexe? J'ai juste utilisé ces mots-clés-là.
Prise de tête, là, Ariane.
Vous savez quoi? J'ai tapé juste religieux sextoy.
Ah.
Et vous savez sur quoi je suis tombée?
Je crains le pire.
Ben oui, moi aussi. Non, mais c'est vraiment d'un mauvais goût garanti. Vous avez un site qui se dit catholique, qui a créé des sextoys, des God Michet aux effigies de la Vierge Marie, de Jésus, etc. C'est effroyable de voir ces représentations-là.
Et donc, effroyable, n'exagérons rien, mais c'est assez mauvais goût.
C'est de très mauvais goût, et je dis que c'est effroyable parce que c'est laid, en fait. En plus, franchement, comme objet de plaisir, ils auraient pu trouver autre chose, évidemment. Et ils ont fait tout un jeu de mots, en fait, là-dessus. Le site s'appelle divineintervention.com, et leur baseline, c'est « In gods we trust ». En Dieu, on aurait pu comprendre « gods », sauf que là, c'est « gods » au pluriel. Dans les gods, donc nous croyons, et en fait voilà, ils font des God Michel, encore une fois, avec des symboles
et
religieux.
Et vous êtes fiers de leur faire de la pub?
Non, parce que c'est vrai que j'en suis pas fière.
Franchement,
je n'en suis pas fière, j'avoue.
Je ne veux plus de pub de ce genre, Ariane, franchement.
Je n'en suis pas fière, mais c'est tellement surprenant.
Vous allez aller droit en enfer, Ariane.
Écoutez, si c'est le sort que je mérite, je devrais bien m'y plier.
Vous y pliez, oui, c'est vrai qu'on sait que ça tend la bite. En enfer, hein. Bon, allez, on va faire une petite pause qui s'impose. On se retrouve dans un instant.
32-16 touche 1, réagissez en direct sur RMC.
Et un petit tour du côté d'RMC.fr avec Bertrand qui nous envoie ce mail. Bonjour, je suis avec une femme qui a tendance à être assez dépressive et c'est assez compliqué pour moi parce que j'ai l'impression qu'au fil du temps, je perds un petit peu ma bonne humeur, mon optimisme. Oserais-je dire ma joie? Que pouvez-vous me conseiller? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Bertrand de continuer à prendre son oxygène aussi?
Oui, alors déjà, la première chose qui est géniale, c'est qu'il a pris conscience. Mmh. Il a pris conscience que la dépression commençait à le gagner. Alors, c'est sûr que c'est extrêmement difficile de vivre à côté de quelqu'un qui est dépressif, parce que le simple fait de la regarder fait que nos neurones miroirs vont induire cette dépression à l'intérieur de nous et on va se sentir de plus en plus lourd. Donc, première chose...
Vous voulez dire que quand on est, par exemple, si on met une personne joyeuse et une personne dépressive, c'est la personne dépressive qui va gagner sur le plan des neurones miroirs?
Pas forcément. Celle qui va gagner, c'est celle qui est la plus... gagner entre guillemets, qui va c'est celle qui est la plus enfermée dans son problème. Donc si on est vraiment super ancré dans la joie, on peut réussir à faire venir l'autre, mais le problème de la dépression, c'est que c'est lié à un déficit de dopamine dans le cerveau. Il y a une réalité aussi
physiologique.
Mm-hmm. donc on peut pas forcément tout de suite faire ressurgir de la dopamine. On peut sécréter, aider à sécréter sécréter de l'ocytocine en la prenant beaucoup dans les bras, en lui faisant beaucoup de câlins, en lui faisant beaucoup, en donnant beaucoup de contacts. Évidemment, un dépressif en général il rejette. Ça fait rien. On insiste un petit peu. Je peux conseiller le baiser de 10 secondes avec la langue bien sûr. Et donc 10 secondes par jour. C'est, on compte vraiment, hein. Et pendant 10 secondes, on fait un, on s'embrasse, hein. Et même si l'autre se défend un peu, c'est pas grave, au bout d'un moment, il se laisse aller. Et ce baiser, petit à petit, fait revenir l'ocytocine.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Journalistes, photographes, réalisateurs ou techniciens, tous chez Brigitte sur RMC.
Et nous terminons la semaine dans la joie et la bonne humeur avec Isabelle Filioza, notre guide aujourd'hui. Vous êtes psychothérapeute et vous avez eu envie de nous aider à développer justement cette joie que nous avons tous. Hein. Ça fait partie des quatre émotions principales, la joie, mais c'est vrai qu'elle est souvent un petit peu négligée. Les chemins de la joie, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Justement, Isabelle Filioza, on parle énormément de plaisir dans cette émission. Plaisir et joie, il y a un rapport ou pas du tout?
Ah oui, il y a un rapport, mais ça n'est vraiment pas la même chose du tout. Si on déguste, par exemple, un carré de chocolat, je mets le carré de chocolat dans ma bouche, ça me donne du plaisir. Mes papilles sont toutes pleines de ce chocolat, le sucre, le chocolat. Bref, j'éprouve du plaisir. Ça n'est pas de la joie. Mais je peux éprouver de la joie avec ce même carré de chocolat.
Si je le partage, c'est ça?
Si je le partage,
eh ben oui.
Tout à fait. J'avais pas pensé à cette dimension-là, mais effectivement, c'est si je me sens en connexion. Mais effectivement, si je le partage aussi, ça va donner de la joie.
Pardon.
Bien sûr.
Oui, vous vouliez d'abord dire si on est en relation avec ses sensations, c'est ça?
C'est si on est en relation avec non seulement ses propres sensations, mais surtout avec le fait que ce chocolat a été élaboré par quelqu'un. Quelqu'un a cultivé le cacao. Donc, on commence à voir un peu, à visualiser d'où vient ce chocolat et du coup, on se ressent relié à tout un groupe humain. Et on peut sentir que nous sommes un maillon dans ce cheminement et du coup, nous sommes en connexion. Mais le partage avec autrui va aussi tout à fait
oui,
bien.
Oui, c'est ça, oui.
C'est de toute façon la connexion.
Voilà, c'est ça. Ou si voilà, c'est quelqu'un qui nous
sens.
A offert cette boîte de chocolat.
Exactement.
Quelqu'un qu'on aime bien, chaque fois qu'on mange un chocolat, on va...
C'est ça. Donc le plaisir, c'est juste instantané, c'est juste le sens. Sensoriellement, ça me donne du plaisir. Donc on peut faire l'amour en éprouvant du plaisir sans qu'il y ait de joie. Et s'il y a de la connexion, si on sent ce partage à un autre niveau en même temps, si on se sent en relation plus en profondeur, et si ce que nous sommes en train de faire prend du sens par rapport à notre direction de vie, à nos valeurs, etc., alors nous allons éprouver de la joie.
Oui, donc par exemple, si je prends un exemple bien concret qui est la masturbation, si on se masturbe simplement pour avoir une éjaculation... Ce sera du plaisir, il n'y aura pas de joie. En revanche, si on se masturbe en y mettant du sens, par exemple en pensant à notre partenaire qui est loin et qui nous manque, là on va pouvoir peut-être être dans la joie, c'est ça?
C'est ça, si on donne du sens. Enfin, dès qu'il y a du sens et qu'on sent vivre, c'est-à-dire si en se masturbant, on excite davantage, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans la génitalité et dans le sensoriel limité à notre zone génitale, mais qu'on laisse la vibration pénétrer dans la totalité du corps, quand on se laisse vraiment baigner dans toute cette énergie, alors oui, on vibre et cette vibration, eh bien, c'est ça la joie.
Bien sûr, d'où l'intérêt essentiel quand on fait l'amour avec son partenaire d'être vraiment avec, parce que là, à ce moment-là, on va avoir du plaisir qui va être déculpé grâce à la joie qu'on va échanger ensemble, quoi.
Exactement. Plus on va être en connexion, en relation, en échange, dans le partage, plus on va être authentique, c'est-à-dire oser dire nos propres émotions, oser, parce que c'est ça le contact en fait, le vrai contact, c'est pas juste le contact peau à peau, c'est un contact émotionnel. C'est est-ce que je suis à l'écoute des émotions de l'autre et des miennes propres? Est-ce que j'ose dire mes émotions, dire ce que je ressens? Et quand on est dans ce partage, alors oui, ça nous transporte complètement et on va éprouver une grande joie.
Alors, il y a une
qui relie aussi, hein. C'est-à-dire que non seulement quand on est relié, on éprouve de la joie, mais plus on va éprouver de la joie à faire l'amour ou même dans la relation en général, plus on va être relié.
Alors il y a une chose qui me paraît aussi intéressante et que vous développez dans cet ouvrage Les chemins de la joie, c'est la liberté qui finalement est très demandée par tous, mais au fond n'est pas si je dirais que c'est pas un objectif que tout le monde a envie d'atteindre. Et vous dites c'est peut-être parce que justement quand on est libre, on devient responsable, et devenir responsable ça peut inquiéter, ça peut faire peur, on a peut-être envie plutôt de rester victime.
C'est ça, un certain nombre de personnes qui n'ont jamais appris la liberté, à qui on a toujours demandé d'être obéissant quand ils étaient petits, ont du coup du mal à oser la liberté, et notamment parce que quand je suis libre, eh bien finalement je suis responsable de mes actes. C'est moi qui décide, c'est mon libre arbitre qui dit je vais à droite ou bien je vais à gauche, et donc si j'ai le choix de mes actes, ça veut dire que c'est moi qui suis responsable des conséquences qui peuvent découler de mes actes, tandis que si c'est quelqu'un d'autre qui me dicte mes actes, alors ben finalement ça me dédouane, je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. Et un certain nombre de personnes, quand on a peur, on n'a pas appris la responsabilité, du coup ça nous fait peur, on a toujours peur de ne pas bien faire, ça crée du stress, ça crée de la tension, et du coup on peut préférer ne pas exercer sa liberté et rester effectivement enfermé dans des schémas négatifs.
Et ça évidemment ça commence dans l'enfance, hein. Vous dites il est impératif d'enseigner aux enfants à pouvoir dire non, hein, parce que si un enfant ne peut jamais justement s'opposer, ça sera compliqué pour lui de devenir un adulte libre.
Oui, tout à fait. C'est vraiment important de permettre à nos enfants de dire non. Non, pas n'importe comment et pas n'importe quoi, mais non pour s'autodéterminer. Et non à... on veut aussi qu'ils sachent dire non à l'adolescence, à toutes les sollicitations, toutes les propositions qui leur seront faites, qui sont pas forcément adéquates pour eux. Donc, savoir dire non, c'est savoir garder sa liberté. Et ça suffit pas juste dire non. C'est quand tu dis non, écoute à l'intérieur de toi ton cœur. Qu'est-ce qui te fait oui et qu'est-ce qui te fait non? Et comment est-ce que tu sais où tu veux aller? Si on écoute
sa joie...
Oui, parce que
s'opposer pour s'opposer, finalement, ça n'a pas de sens. Oui.
Tout à fait. Mais donc, c'est vraiment s'opposer, permettre le non pour permettre une conscience des besoins, une conscience des désirs, une conscience de ce que nous sommes, en fait.
Alors, on parlait avec Xavier Pomereau mercredi de ces ados aujourd'hui qui sont un peu paumés parce que justement ils peuvent plus trop se rebeller, c'est presque plus tellement d'actualité. C'est une société finalement aujourd'hui où on ne sait plus très bien finalement ce que c'est que la vraie liberté au sens où vous en parlez justement, Isabelle Filioza.
Oui, ça devient extrêmement complexe aujourd'hui de trouver sa liberté, d'une part parce que on n'est même pas conscient de toutes les influences qui jouent sur nous. Il y a cette problématique autour de la rébellion, mais il y a aussi cette problématique autour de la difficulté de s'isoler intérieurement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un adolescent n'a plus d'espace où il est tout seul avec lui-même et où il peut penser. Et se poser cette simple question, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux aller à droite ou est-ce que je veux aller à gauche? Parce que, sans arrêt, les jeunes d'aujourd'hui sont connectés. Hyper connectés.
Et c'est pas relié.
Et exactement. Voilà. Il n'y a pas forcément un vrai contact. Alors, faut pas exagérer non plus. Certains sont dans un vrai contact, mais nous-mêmes, hein, adolescents, on n'était pas très connectés non plus. Enfin, pas connectés. On n'était pas reliés les uns aux autres beaucoup non plus. C'est pas forcément une période où c'est très facile de se relier à autrui. Donc, c'est assez complexe tout ce qui se passe. Mais là, il y a une grosse problématique, c'est que on est en apparence connecté, mais comme vous le dites, il n'y a pas de véritable connexion intérieure, et du coup, on va vouloir être connecté en surface de plus en plus. Donc, ça devient absolument nécessaire de ne pas louper un seul SMS. Ou,
mais on le voit chez beaucoup d'adultes aussi, ça, qui sont tout le temps en train de regarder leur portable, alors qu'ils sont en train de dîner au resto avec quelqu'un. Enfin, je veux dire, les adultes tombent aussi dans cette.
Tout à fait. Et alors, pour moi, c'est lié à ce manque d'intériorité, et on n'a plus assez d'espace de construction de l'intériorité, on n'est plus assez en contact avec la nature, on est complètement élevé hors sol, on vit dans des villes qui nous stressent énormément, en oubliant que le contact avec la nature est absolument essentiel pour s'harmoniser, pour se reconnecter
à
soi-même.
En même temps, j'ai presque envie de dire qu'inconsciemment, les gens le savent, il suffit de voir depuis 2-3 jours, il fait beau, tout le monde se met aux terrasses des cafés pour prendre le soleil, enfin, en même temps,
Oui, on admire les arbres, bien sûr.
Il y a une part de nous-mêmes qui le sait, mais
tout à fait.
Mais on n'en est pas suffisamment conscience de ça.
On n'en est pas du tout suffisamment conscient. Et puis la ville est trop attirante. Il y a beaucoup de stimulation dans la ville qui stimule les adolescents, mais aussi les adultes. Il se passe énormément de choses. Il y a sans arrêt du monde autour, des lumières, des propositions d'achat, etc. Donc c'est très attirant. Et quelquefois, c'est difficile d'arriver à soutirer notre énergie là et se dire, bon, je sors, surtout que c'est compliqué, les embouteillages, etc. Donc, pour aller rejoindre un peu de campagne, c'est compliqué.
Mais moi, je pourrais raconter une anecdote. Quand j'avais 20 ans, j'étais très, très, très cinéphile j'ai eu envie de découvrir tous les films qui existaient, qui avaient existé. Et je regardais, je sais pas, je devais regarder 3-4 films par jour. Je louais des vidéos, j'en empruntais à des amis, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, mais de toute façon, j'aurais pas assez d'une vie pour voir tous les films, parce que je voyais aussi quelques navets, bien sûr. Et je crois que c'est peut-être ça aussi, c'est de se dire à un moment donné, de toute façon, parce qu'on est dans une société où on a l'impression qu'on peut tout avoir, et c'est peut-être à un moment donné se dire, bon, de toute façon, je vais pas pouvoir tout voir tous les films, alors peut-être qu'il serait bien que je me pose et que je choisisse ce qui est important pour moi et que je laisse tomber, tant pis, voilà. Par exemple, je suis pas fan de Fellini, j'ai laissé tomber beaucoup de films de Fellini. En revanche, j'adorais Charlot, j'ai vu tous les films de Chaplin. Peut-être que c'est ça aussi, à un moment donné, qu'il faut savoir se positionner vraiment, non ?
Ah oui, tout à fait. Et c'est une des choses qui est de plus en plus difficile aujourd'hui, avec Internet, avec c'est fabuleux, ces outils aujourd'hui, qui nous apportent tellement, tellement de choses, mais nous n'avons pas encore suffisamment éduqué les enfants, les adolescents et les jeunes adultes à trier ces informations.
À se centrer, en quelque sorte.
Voilà, tout nous arrive comme ça, et on est un peu, beaucoup de gens répondent à leurs emails toute la journée. Et donc, on a les emails qui arrivent, et du coup, on n'arrive pas à se concentrer. On croit qu'on fait du multitâche, mais en réalité, non. Le multitâche, on est juste humain, et donc, on a une illusion de pouvoir faire du multitâche, mais en réalité, non, nos performances baissent. Et surtout, ce qui est plus difficile, c'est notre capacité d'intériorité qui baisse, notre capacité à sentir qui je suis, où est-ce que je veux aller, comment est-ce que je peux m'accorder à ma vibration. Et c'est ça la joie, c'est quand je sens la vibration de ma vie à l'intérieur de moi.
Oui, alors plutôt se recentrer que zapper sans arrêt.
C'est ça.
Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup Isabelle Filiosa. Les chemins de la joie, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Eh bien, profitez de ce week-end justement pour vous recentrer. On se retrouve bien sûr lundi. Je serai en compagnie de Christian Jamin. Et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir tous les jours de recevoir un chanteur ou une chanteuse. Et on commencera la semaine avec Philippe Catherine qui sera avec nous.
Sur RMC, ne ratez rien de L'AL, amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.